Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde. Alors, c'est pas parce que le thème c'est les mondes post-apocalyptiques après la catastrophe qu'on va se déprimer. Hein. Attendez-vous à rire, à trouver des solutions, à espérer encore un petit peu, ou alors on arrête tout de suite, on met fin au monde dès maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être qu'on peut commencer pour faire un petit tour d'horizon de chacun de vos univers, par décrire dans quelles conditions l'apocalypse se produit dans chacun de vos livres, pour ceux qui ne les connaissent pas et qui ont envie de vous découvrir par ce biais. Pas un biais forcément hyper gay, mais Estelle, comment ça se passe dans votre univers ?
Mais je vais voler le micro de Valérie, en fait. Voilà, merci.
Il y a des problèmes de micro.
Voilà. Donc, en fait, la manière dont l'apocalypse se produit, c'est vraiment pas central dans le livre. Alors, bien sûr, je l'avais imaginé, mais très franchement, c'est le truc sur lequel l'éditeur m'a dit quand même, rajoute-en un peu, là. Et, parce que, finalement, 90% du monde a été détruit. Quelques grandes villes ont survécu, dont Paris. Enfin, les autres, on n'est pas sûr, mais Paris, on est sûr, parce que c'est vu au travers d'un personnage qui est parisien, et il n'y a plus beaucoup de moyens de communication, de toute manière, entre les potentiels survivants. Donc, il sait que Paris, c'est bon, les autres, on ne sait pas trop. Et plus que la manière, en fait, dont le monde est mort, ce qui m'intéressait, c'est la manière dont les gens voient cette fin du monde. Et en fait, cette fin du monde, ils la voient un peu, finalement, comme une sorte de conte fondateur, une sorte de genèse. Et ils l'ont recréé sous forme de mythe, donc... On comprend, après je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui est en gros un mélange de catastrophes écologiques et économiques, qui ont été très mal gérées bien sûr, parce que sinon l'humanité ne serait pas scalée. Mais pour eux, c'est les parties que j'ai appelées fairy tale en fait, parce qu'ils les voient comme un conte de fées un peu cruel, où les villes se sont fortifiées à la façon de châteaux médiévaux, et puis ensuite les populations extérieures ont cassé ces fortifications, les ont mis à bas. Ils voient aussi, par exemple, dans ce monde mort qu'ils voient depuis les sommets des immeubles qui subsistent à la bordure de Paris, donc il y a des fumerolles de gaz qui s'échappent du monde mort, et pour lui, c'est des fantômes. C'est les témoins du passé, en fait, les âmes mortes qui mettent les hommes en garde contre les erreurs du passé pour pas qu'ils les reproduisent.
Merci. Chez Pierre, comment se passent les choses ?
Mal. D'ailleurs, je vais vous déprimer à fond. Je suis là pour ça. Alors pour moi, il y a plusieurs formes d'apocalypse. J'ai toujours été intéressé par l'apocalypse, à savoir la première, d'ailleurs, qui a donné son nom aux gens, hein, qui c'est l'apocalypse de Saint Jean, que j'ai lu plusieurs fois. Qui est assez fascinante, très symbolique, mais fascinante. Et l'apocalypse a toujours existé. Hein. D'ailleurs, Pierre Pelot, qui était ici, avait une nouvelle affaire sur l'Uchronie. Il a dit « L'arche de Noé a coulé. » Boum. C'est fini, on n'en parle plus. C'est une vraie apocalypse.
Histoire suivante.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est évidemment, ce sont les récits eschatologiques hein, qu'on appelle. C'est basé sur la fin des temps. Et il y a plusieurs fins des temps possibles. Il y a la cause guerrière, hein, les guerres avec l'atome, l'utilisation de l'atome. Donc ça, j'ai utilisé dans Les Derniers Hommes et un petit peu dans Chronique des Ombres ici. Il y a l'apocalypse génétique qui est moins courante, mais qui est aussi, à mon avis, une façon d'exterminer l'humanité, c'est de remplacer l'humanité par une nouvelle espèce existante. Il y a l'apocalypse climatique, alors que j'ai testé dans le feu de Dieu. Moi, j'ai testé toutes les formes d'apocalypse, j'adore ça en fait. J'adore détruire les jouets avec lesquels on joue pour voir ce qu'on peut fabriquer comme nouveaux jouets. Hein. C'est ce que disait Estelle, c'est-à-dire comment vont réagir les hommes dans des situations extrêmes. Et du coup, alors avec les débats qu'on a eu sur le space opéra avec Victor hier, on retrouve un peu le même propos qui est de mettre des personnages dans des situations extrêmes pour voir ce qu'ils vont trouver comme ressources en eux pour apporter quelque chose de nouveau finalement. C'est l'apocalypse, c'est cette espèce d'envie de recommencer tout parce que c'est un peu de bordel là, actuellement et on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Alors donc on casse tout puis on dit voilà, on va faire quelque chose d'entièrement nouveau. Sauf que évidemment l'humanité a des réflexes et des vieux schémas de pensée qui font que souvent ça recommence. Et donc c'est intéressant de voir comment, dans d'autres circonstances, peut réagir l'humanité si elle va être capable de trouver, d'avoir une vision vraiment neuve des choses ou si elle va recommencer ses erreurs. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi dans le post-apocalyptique. Vous n'êtes pas trop déprimé ?
Non, pas encore. Mais vous pouvez faire mieux.
À la fin de la conférence, normalement, il devrait rester plus qu'une ou deux personnes dans la salle. Et les autres seront se jeter dans la Moselle.
Comme le disait hier Laurent Val, puisqu'on parlait aussi de sombres horizons, il disait, vu ce qu'on décrit dans nos livres, pas la peine d'acheter. Hein, l'immobilier, c'est mort.
L'immobilier, c'est un certain risque avec le post-apocalyptique, hein, c'est clair.
Victor, comment se passe votre fin du monde ? Si c'est la fin du monde.
Oui, bah, c'est une figure aussi que j'ai abordée dans différents livres. Dans ma première série, le cas de Jack Spark, le troisième tome s'intitule « Hiver nucléaire ». Donc c'est une des fins du monde possibles. On pense d'ailleurs que ça a peut-être déjà eu lieu dans le passé et que ça aurait causé la disparition des dinosaures. Une pluie de météorites très volumineux qui s'abattent sur Terre, qui soulève un nuage de poussière tel que l'ensemble de l'atmosphère est mise sous couvercle et le soleil ne peut plus atteindre la surface terrestre pendant plusieurs années. Donc toute la chaîne alimentaire s'effondre, il n'y a plus de végétaux, les herbivores meurent, les carnivores meurent à leur tour, et ainsi de suite. Donc c'est ce que je mets en scène dans Jack Spark. Et dans mon dernier roman, Phobos, c'est plutôt comment on se prépare à l'apocalypse et à la disparition possible, probable, de notre Terre dans un avenir plus ou moins proche. Et c'est une des grandes motivations de la conquête spatiale. Pourquoi aller vers les étoiles? Pourquoi aller vers d'autres planètes? Pourquoi coloniser d'autres planètes? Finalement, la raison peut-être la plus importante, c'est d'avoir une terre de rechange. Et c'est ça qui motive le fait de risquer sa vie peut-être pour aller dans l'espace et coloniser Mars. En tout cas, c'est ce qui est présenté dans ce livre Phobos. Et peut-être pourquoi est-ce que l'apocalypse et les situations post-apocalyptiques nous intéressent en tant qu'auteur et intéressent peut-être les lecteurs ? J'ai l'impression qu'une
c'est
des fonctions...
C'est ma prochaine question.
Ah bon,
on va laisser Mike peut-être éventuellement parler de son apocalypse et puis Victor, vous serez le premier à en parler.
My apocalypse is a zombie apocalypse, which I guess is the most fashionable and trendy apocalypse right now.
Donc mon apocalypse à moi, c'est une apocalypse avec des zombies. C'est en fait le truc à la mode en ce moment.
I tried to come at it from a different direction. I had read about a fungus, Ophiocordyceps unilateralis, which is a genuine entity, organism.
Alors en fait, l'idée de départ, j'avais lu en fait un article et des choses sur un champignon.
Just remind me the name.
Ophiocordyceps unilateralis.
Voilà. Le Ophiocordyceps unilateralis. Bien connu.
It's a parasite on ants, but what it does, sorry.
Yeah, c'est un parasite des fourmis.
But it's a mind control parasite. It actually takes over the ant. It grows up inside the ant's body, and it imitates the neurotransmitters of the ant.
Et en fait, ce parasite va s'emparer de la fourmi, va coloniser son système nerveux, et ensuite va générer des neurotransmetteurs qui, en fait, imitent les neurotransmetteurs du cerveau pour contrôler, en fait, la fourmi.
So I just imagine, suppose that species had jumped to humans, to parasitize humans. So you have a situation where most of the human race have become controlled by a fungus which only wants them to bite other humans to spread the infection.
Et en fait, donc, moi je suis partie de ça, puis j'ai imaginé que finalement ce champignon s'est adapté et qu'il a réussi en fait il s'est adapté pour pouvoir coloniser en fait les humains et que donc il infecte les humains, il prend le contrôle et en fait comme il cherche à se répandre, et ben en fait il va générer une motivation très forte pour que cet humain morde d'autres humains et comme ça il va passer dans le sang de la personne mordue et continuer à se répandre.
But there is a small group of children who have a partial immunity to the fungus. They have the hunger, but they can also think and feel like ordinary people, and they're treated as laboratory animals at the start of the book. And the story basically concerns one of those children.
Et en fait, on remarque dans l'histoire qu'on découvre un petit groupe d'enfants qui ne se comportent pas de la même manière que des adultes. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont contaminés, ils sont infectés par le parasite. Mais en fait, le parasite ne réussit à prendre qu'un contrôle partiel. C'est-à-dire qu'ils ont bien sûr cette envie de mordre, mais ils sont capables de se contrôler, ils sont capables de penser intelligente. Et donc, du coup, ils sont pris comme sujet de laboratoire par un groupe de scientifiques qui essayent d'enrayer l'épidémie. Et donc, c'est ces enfants-là qu'on va voir dans le roman, on les voit au début, et particulièrement un de ses enfants qui s'appelle Mélanie.
Okay. Alors, puisque Victor a devancé l'avancée de cette discussion, qu'est-ce qui vous fascine dans l'idée de parler de ce moment particulier de fin du monde? Pourquoi est-ce que vous avez envie de mettre vos héros dans cette situation-là en particulier?
J'ai envie de mettre mes héros dans cette situation, mais surtout mes lecteurs, parce que j'ai l'impression qu'une des fonctions de la littérature et de la fiction plus généralement, c'est de nous permettre de vivre par procuration des situations extrêmes, de nous mettre en danger tout en restant en sécurité derrière son livre. Mais au moment où on lit l'histoire, on a des vraies montées d'adrénaline, on est confronté à des choix et on est en situation de survie. Finalement, ça nous entraîne un peu à survivre, et si on était vraiment confronté à ces situations dans la vie réelle, comment est-ce qu'on réagirait? Moi, j'ai l'impression que c'est une fonction très importante et que le cerveau demande ça. Et quand on se met dans un cadre post-apocalyptique où la survie est le maître mot, c'est vraiment l'enjeu, le lecteur va en retirer justement des enseignements, mais aussi en apprendre plus peut-être sur lui-même.
Vous pensez que c'est intéressant pour nous tous, plutôt que de faire des tests idiots sur Facebook, de savoir combien de temps on survivrait en cas d'apocalypse zombie, il vaut mieux lire vos livres pour savoir qu'on ne survivrait pas.
Les deux sont compatibles peut-être, pour mettre toutes les chances de son côté.
Et est-ce que vous aviez envie de transformer la figure habituelle du zombie ou de transformer la figure habituelle de l'apocalypse? Pourquoi ce traitement un peu différent?
It was much more about the zombies, if I'm honest. I love.
Yeah, go on.
I love post-apocalyptic fiction because there was a British writer, John Wyndham, who coined the term the cozy catastrophe.
Alors en fait, moi j'ai plutôt eu envie, plutôt que l'environnement post-apocalyptique, j'ai plutôt eu envie de jouer sur les codes du zombie, même si de toute façon j'ai toujours aimé la littérature post-apocalyptique. Et il y a notamment un écrivain anglais, John Wyndham, avec, alors je ne sais pas quelle est la traduction française, the cozy, I don't even know if it's translated in France.
Cozy catastrophe.
La catastrophe cozy, en fait, confortable.
Yeah.
Alors,
because as soon as the world ends, you don't have to. There are so many things you don't have to worry about ever again. Your job, your mortgage, who's going to put the meal on the table?
Et enfin, finalement, l'apocalypse, c'est aussi un peu confortable d'une certaine manière, parce qu'il y a tout un tas de choses dont on n'a plus à se préoccuper. Le boulot, les courses, la maison, qu'est-ce qu'on va mettre à manger sur la table, le loyer.
Everything gets very, very simple.
Et tout devient beaucoup plus simple.
But it was more about Melanie. It was more about finding a way of showing the monster as another face of the human, of ourselves.
Et en fait, donc non, moi pour moi, c'est le travail le plus intéressant, c'était le travail que j'ai fait sur Mélanie, parce que c'était un moyen de montrer en fait le monstre pouvant finalement être une autre facette de l'être humain.
Ok. Chez Pierre, dans la fraternité du Panka, est-ce que Frère Ewen est une espèce de croisé malgré lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit aller sur Phaïtos pour... Est-ce que c'est une planète à reforger? Est-ce que vous envisagez le... Je me suis demandé si Phaïtos, il y avait quelque chose à chercher dans ce nom.
Mais certainement. Si vous trouvez, vous me le dites. alors, dans Frère Ewen, qui est le premier tome de la Fraternité du Panka, il s'agit d'un space opéra. Donc, ce n'est pas un roman post-apocalyptique à proprement parler. L'idée, c'est qu'il y a un danger extrême qui arrive sur l'univers. Une sorte de machin noir qu'on voit dans le lointain et qui semble très, très dangereux. Et il y a une fraternité qui s'appelle la Fraternité du Panka qui est chargée de lutter contre ce genre de menace concernant l'univers. Et pour lutter contre cette menace, il faut qu'on reforme en catastrophe une chaîne quinte de 5 frères, donc une chaîne pankadvik, parce que panka, c'est la racine du mot pantin, ce qui veut dire 5 en grec. Et donc, chacun des personnages possède dans son cerveau une amna, c'est-à-dire une sorte d'implant qui capte ses données cérébrales et qui doit transmettre à un frère suivant, pour former cette chaîne de 5, jusqu'à ce que le dernier frère, qui est aussi le premier de la chaîne, puisse lutter contre le danger, additionner, si vous voulez, des pensées, de l'énergie de ses frères précédents. Voilà. Donc, Ewen est quelqu'un qui n'aurait pas dû se marier. D'ailleurs, il ne faut jamais se marier. Parce que, appartenant à la fraternité du Panka, on conseille à aux frères de ne jamais créer de lien affectif parce qu'ils peuvent partir à tout moment. Mais lui, il a un peu oublié ça. Il est tombé amoureux, il a fait des enfants avec une femme. Et même si c'est de la science-fiction, ça reste avec une femme, désolé. Et donc, d'un seul coup, il reçoit l'ordre cérébral de partir pour en quête de du deuxième frère. Et il doit se pose en lui la lutte entre le devoir et le bonheur, tout simplement. Et il doit partir, abandonnant femme et enfant, en sachant qu'il ne le reverra jamais parce qu'il part pour un voyage très lointain qui va durer 80 ans, donc ce qui laisse peu d'espoir de retour. Et voilà, ça raconte son histoire, son odyssée pour jusqu'à la rencontre du frère suivant, qui sera une grosse surprise à l'arrivée, le frère suivant d'ailleurs. Donc voilà, c'est cette histoire-là. Et Phaistos, est-ce que le nom Phaistos veut dire quelque chose? Oui, mais je vous laisse deviner. Enfin, le temps que je cherche exactement ce que ça veut dire, je m'en souviens plus trop, en fait.
Bien. Alors Estelle, est-ce que pour vous aussi, Chet, votre chanteur de jazz survivant, c'est un peu aussi un serial lover. Mike vient de nous dire que plein de choses disparaissaient de notre centre d'intérêt quand on était dans un monde post-apocalyptique. Vous, il continue quand même à s'intéresser à des choses assez triviales.
Alors déjà, c'est pas du tout trivial. Je veux dire, on parle grand sentiment aussi par moment, et puis moins grand sentiment. Disons, plus qu'un serial lover, il a une vie sentimentale relativement compliquée, parce que c'est pas parce que 90% du monde est mort qu'on arrête d'avoir des sentiments, au contraire. Et c'est vrai que justement le post-apo, pour moi, c'est ce qui m'intéresse, contrairement à ce que vous avez dit, donc me tapez pas dessus, c'est que c'est un genre super positif, je trouve. Et parce que c'est un genre qui montre qu'on survit et qu'on continue, justement, un siècle après l'apocalypse, on continue à aimer, on continue à faire des choix absolument idiots par amour. On continue, mine de rien, aussi, par moments, au contraire, faire des prouesses incroyables pour quelqu'un dont on ne sait même pas si on l'aime vraiment ou si on a juste envie un peu d'attirer son attention ou de le séduire. Et voilà, c'est vraiment, le monde continue à vivre, voire même, quelque part, le monde vit plus fort parce que on a un petit peu aussi fait de la destruction créatrice, c'est-à-dire on a détruit un peu 2-3 trucs qui commençaient à plomber la situation, et ce qu'on a reconstruit sur les ruines avec les bouts de ruines, c'est d'autant plus beau et ça permet d'autant plus belles histoires. Ça, c'est peut-être mon vieux côté punk. Et voilà. Et pour finir donc sur Chet, en fait, il se retrouve pris dans ce qui est finalement des sentiments éternels de l'être humain. Il est redingue amoureux d'une fille à qui il n'ose jamais le dire. D'un autre côté, il craque complètement pour, évidemment, toujours la mauvaise personne quand elle passe à sa portée. Et au milieu de tout ça, il se plonge dans les pires ennuis possibles. Et finalement, quand les conditions deviennent plus dures aussi, l'humanité des hommes s'exacerbe. Et quelque part, au-delà du côté où ça m'abusait beaucoup de jouer avec les sentiments de ce pauvre Chet, parce que c'est intéressant aussi, c'est montrer que dans cette situation un peu extrême, l'humanité devient extrême aussi, avec tout ce que ça peut avoir de beau, de pitoyable, de dérisoire par moment.
C'est pas moi qui suis pas optimiste, et je ne tape personne. Même en cas de fin du monde. Enfin non, en cas de fin du monde, je peux rien garantir. Est-ce que justement, je trouve intéressant dans les choix faits par Victor, par exemple, est-ce que du coup, le post-apocalyptique, c'est la fin du monde? Et ça, c'est terriblement pessimiste, effectivement. Ou est-ce que c'est tout simplement la fin d'un monde? Et vous rebâtissez sur les ruines, vous proposez des solutions quand ça s'arrête, quand ce qu'on connaît s'arrête, parce qu'on a nous-mêmes un peu carrément foiré.
Je pense que les deux interprétations sont possibles, ça dépend des histoires, mais l'expression d'Estelle qui m'interpelle, c'est destruction créative ou créatrice. Et c'est vrai qu'un certain nombre de mythes païens envisage la fin du monde de cette manière. Quand on regarde les Mayas avec leur destruction du monde cyclique qui reviennent, alors c'était 2012, alors on a survécu cette fois-ci, mais aussi les Scandinaves. Mon prochain roman, qui sera le deuxième tome d'Animal, se penche vraiment sur la mythologie scandinave, et en particulier sur le mythe du Ragnarok, qui est cette destruction du monde, destruction des dieux, destruction de toute vie sur Terre, sauf des germes de vie qui vont réussir à survivre pour créer un nouveau monde. Et finalement, le Ragnarok, qui pourrait être paraître comme quelque chose d'extrêmement lugubre, une fatalité sans nom, parce qu'on ne peut pas y échapper, c'est un événement qui est positif dans la mentalité des anciens scandinaves. Donc effectivement, tout dépend de quel point de vue on se place par rapport à cette fin du monde.
Et est-ce que ce sera le moment où on pourra rencontrer Loki? Parce que moi, j'aimerais bien un rendez-vous avec lui en particulier. Non.
Je ne spoil pas.
Mike, est-ce que vous, vous souhaitiez, en orientant plutôt l'histoire sur ce que vit la petite fille, montrer comment, comment la destruction et comment notre vision... Parce que vous, les scientifiques dans votre roman ne sont pas... sont pas forcément les personnes les plus positives et les plus bien intentionnées. Est-ce que vous vouliez montrer que, justement, dans une situation catastrophique ou dans une situation où tous les repères sont changés, les bons et les mauvais, ça n'a plus vraiment de vraie valeur?
Good and bad may change and may be seen differently.
Certainly that they may be seen differently. I think it's a little bit like what you were just discussing with Victor, that that the scientists are trying to recreate the old world. They're trying to bring the old world back, in effect. They're trying to save humanity as it was before the fall.
Oui, alors je pense que finalement, effectivement, le bien et le mal, j'ai effectivement traité de ça, et c'est un petit peu comme ce que disait Victor un petit peu plus tôt. Dans mon monde, en fait, les scientifiques essayent de reconstruire ou de préserver le monde tel qu'il était avant.
But in fact, in doing that, they're probably destroying the possibility of a different kind of rebirth. There's something else which is happening.
Et en fait, en faisant ça, ils sont probablement en train d'empêcher la recréation de quelque chose de différent, tel que c'était censé se passer.
In a way, the whole story is kind of a retelling of the myth of Pandora, the myth of Pandora's box. And it builds up to the point where the little girl is the one who effectively has to decide whether the old world is brought back or whether a new world is created.
Et en fait, à travers ce livre, j'ai voulu traiter du mythe de Pandore, hein, le mythe classique. Et à la fin du roman, finalement, ça va être à Mélanie, à la petite fille, de décider finalement, est-ce qu'elle ouvre la boîte et est-ce qu'elle libère quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'elle la laisse fermer et qu'on retourne finalement à l'ancien monde.
Chez Victor, on a un peu, on peut résumer de façon très triviale, mais j'aime bien faire ça de temps en temps, votre livre entre Gloire, Amour et Billet sans retour. Hein, c'est un peu voilà. Est-ce que filmer les instants juste après la fin du monde, c'est pas un peu une idée de télé-réalité, parce que vos héros se retrouvent dans un vaisseau et on les filme.
Oui, parce que pour résumer très rapidement, c'est effectivement l'histoire de six garçons et six filles qui sont sélectionnés pour partir sur Mars en aller simple. Et coloniser, établir la première colonie humaine sur Mars. Et tout ça se combine avec un jeu de speed dating. Ils ne se connaissent pas, ils auront les 3 mois de voyage vers Mars pour faire connaissance, se séduire et établir les couples qui seront chargés de procréer dès l'arrivée sur la planète rouge. Tout ça, bien sûr, est retransmis en direct 24 heures sur 24. Non seulement le voyage, mais aussi chaque minute de leur vie une fois sur Mars.
Love story dans l'espace.
Voilà, c'est ça, et c'est quelque chose qui est en train déjà d'advenir, parce qu'on a le projet Mars One, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, cette société néerlandaise, qui est déjà en train d'essayer de monter une télé-réalité pour envoyer des gens sur Mars en aller simple, parce qu'on n'a pas les moyens financiers de les faire revenir, ni les moyens techniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 200 000 personnes dans le monde entier qui ont postulé, qui ont dit « je suis d'accord pour tout laisser tomber, ne jamais revenir sur Terre et partir vers Mars ».
Il y en a parmi vous ? Non ?
Donc, c'est...
Ça se tentait. Pierre !
Non, ne me croyez pas, je déconne complètement.
Enfin, pour le speed dating et pour procréer tout de suite, c'est peut-être parti là.
Non, j'ai passé l'âge de procréer, merci.
C'est étonnant cette histoire de speed dating, parce que quand même c'est un risque énorme que si personne se retrouve dans l'espace, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Quoi, non. Là on oblige les gens à...
C'est un risque qu'ils sont prêts à courir dans mon roman, mais dans la mesure où on a déjà 200 000 personnes dans la vie réelle qui sont prêtes à partir au-delà de l'objectif de speed dating sur Mars, je pense que tout est possible. On a aujourd'hui une soif de gloire, d'être retransmis dans le monde entier par l'intermédiaire des images. On vit quand même dans une société qui vit sous la dictature de l'image. C'est tout à fait possible. Je pense que ce que je décris dans Phobos, ça arrivera demain ou après-demain. Ça, j'en suis absolument persuadé. Alors, est-ce qu'on est déjà dans une situation pré-apocalyptique, apocalyptique ça, je ne sais pas. Mais...
Pierre, dans Les Dames Blanches, l'arrivée des étranges bulles... qui se mettent à kidnapper des enfants. Est-ce que c'est là aussi une fin de monde ?
C'est une fin de monde possible en tout cas, c'est-à-dire
qui concerne l'invasion d'une forme de vie étrangère contre laquelle on ne peut pas grand-chose et qui s'installe et qui oblige l'humanité à s'organiser pour essayer de lutter contre ce phénomène qu'il ne comprend pas de toutes les façons d'ailleurs, parce qu'il le perçoit comme un phénomène antagoniste, ennemi, et ce n'est peut-être pas ça du coup. Ça veut dire changer aussi son système de pensée pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'admettre ce qui se passe. Pour en revenir au post-apocalyptique, j'ai l'impression qu'il concerne beaucoup la vision linéaire du temps, c'est-à-dire que c'est la fin des temps. Quand vous avez une vision cyclique, qui est celle des nomades finalement, vous avez ces fins de temps régulières, parce que les saisons c'est une fin de temps et ça recommence après. Et nous, notre vision linéaire fait que nous avons une grosse crainte de la fin des temps. Dans tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les textes bibliques parlent de fin du temps et agitent cette menace de fin des temps. Et j'ai l'impression que c'est une sorte d'opposition. Et souvent dans le post-apocalyptique, d'ailleurs, il y a un retour au nomadisme, parce que c'est une sorte d'opposition entre le nomadisme qui est cyclique et la sédentarité qui est linéaire, avec ces notions de frontières et de prévoyance dans le futur. Les nomades ont cette espèce de symbiose avec la nature qui fait qu'ils ne craignent pas la fin des temps. C'est nous qui craignons la fin des temps, parce que comme si nous ne pouvions plus à la fois amasser des richesses qui nous permettent de traverser le temps. Quand on devient riche de façon exagérée, c'est simplement qu'on essaie de reculer la mort finalement, en mettant le plus possible de murs entre la mort et nous, mais elle viendra nous prendre parce que c'est cyclique. Et donc une partie de la science essaie de briser cette malédiction de la linéarité en essayant de nous faire croire à une possible immortalité. Et je pense que là, c'est une direction qui nous mène directement dans le mur, justement, dans la catastrophe, parce que on ne respecte pas la vision cyclique du temps. Voilà. Je ne sais pas où je voulais en venir, mais bon, ça semble vaguement intéressant quelque part.
Est-ce que justement, c'est cette volonté d'immortalité qui est peut-être ce qui caractérise les sédentaires par rapport aux nomades.
Mais on retrouve ça dans le mythe de Gilgamesh. Le mythe de Gilgamesh est quand même les premiers agriculteurs et les grandes plantations, etc. Les premiers mythes de gens sédentaires. Et le mythe de Gilgamesh est une recherche sur l'immortalité, puisque Gilgamesh a perdu son ami Enkidu, qui est mort et qui cherche à le ressusciter et qui va faire tout un périple. Donc c'est une obsession qui est très très ancienne et qui, je pense, a un trait avec la vision linéaire du temps. Si on n'a pas la vision linéaire du temps, alors ça change complètement la perception des choses.
Ok, et alors, du coup, on se demande en vous lisant, est-ce que chez vous, ou est-ce que dans notre univers, vous considérez qu'il y a quand même des choses à sauver ? Est-ce qu'il y a une humanité à sauver ? Est-ce qu'il y a la Terre à sauver plutôt que l'humanité ? Est-ce que c'est le genre de choix et le genre de questionnement que vous faites, Estelle ?
Alors, voilà, c'est... quelque part, pour rejoindre la question de l'immortalité, justement, il y a quelque chose à sauver, et même sauver l'humanité, c'est quelque part ce que fait beaucoup le post-apo, lui retirer la décrocher de ce rêve morbide de l'immortalité. Et ça me rappelle une lointaine table ronde dans un lointain festival quand j'étais pas auteur auquel j'assistais, qui était sur l'immortalité. Et il y avait des auteurs et des scientifiques qui se posaient la question de quand est-ce qu'on atteindra l'immortalité ? Comment on atteindra l'immortalité ? Et à aucun moment, même quand il y a eu les questions du public, bon, moi à l'époque je n'osais pas en poser, j'étais timide, il n'y a personne qui a posé la question, mais est-ce que l'immortalité est vraiment souhaitable ? Est-ce que c'est le but qu'il faut atteindre ? Et quelque part, justement, le post-apo pose aussi la question de qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie ? Qu'est-ce que, quand on n'a plus grand-chose, finalement, qu'est-ce qu'on veut garder ? Qu'est-ce qu'on veut sauver soi ? Qu'est-ce qui fait notre humanité ? Et c'est ça la question importante. Et finalement, par exemple, dans cette ville de Paris, un siècle après l'apocalypse, Chet, ce qui l'intéresse, c'est d'être à la fois, il est tiraillé entre vouloir être libre et puis ne pas vouloir être seul, et comment les deux s'organisent l'un par rapport à l'autre. Il essaye de retenir un peu ceux qu'il aime et qui sont partir. Mais finalement, l'idée de lui être immortel, c'est pas quelque chose qui l'occupe, au contraire, c'est quelque chose quelque part qui fait plus partie de cet univers-là. Parce que justement, il peut avoir une vie intéressante, il peut avoir une vie où il croise des gens, s'il prend des risques, donc
quand on prend un risque, on prend ultimement le risque soit d'avoir une vie plus courte, soit carrément d'avoir une vie très très raccourcie. Mais c'est ça qui rend la vie intéressante. Et c'est aussi ça que nous dit Post-Apo. C'est, voilà, avant tout, ce qui compte, c'est une vie intéressante, c'est une vie riche. Pas au sens donc amasser des richesses comme on peut faire quand justement on peut faire des emprunts immobiliers à long terme parce qu'on sait qu'il n'y a pas des météorites qui vont nous tomber dessus ou autre, mais avant tout justement avoir une richesse qu'on puisse trimballer avec soi partout où on va. Et Chet ne possède pas grand chose, mais à la fin du roman il s'aperçoit finalement, je ne vais pas trop spoiler, voilà, mais... Voilà, enfin, il s'aperçoit que finalement, il n'a pas besoin justement de trimballer beaucoup de possessions, ou il n'a pas besoin d'avoir tout le temps quelqu'un dans ses bras ou quelqu'un dans son lit pour avoir une vraie richesse et une vraie richesse et une vraie humanité. Et la manière dont ça se rend compte, ça, je vous laisse découvrir.
Je suis entièrement d'accord avec Esten, et juste de dire que le post-apocalyptique, c'est peut-être le passage à l'être, de l'avoir à l'être.
Du coup, on rejoint un peu l'idée de cozy catastrophe, c'est-à-dire cette catastrophe qui finalement va nous libérer de toutes ces attaches matérielles, de toutes ces structures sociales aussi qui nous contraignent et qui nous pèsent, pour se recentrer peut-être sur l'essentiel, en tout cas sur l'être humain, sur la conscience qu'il a du monde. Donc c'est peut-être l'aspect positif du post-apocalyptique.
Une certaine forme de dépouillement.
Absolutely agree, yeah. Charlie Strauss was talking on a panel yesterday about how our tools, which we create for our own use, eventually end up using us and changing us. Everything we create becomes a part of us.
Alors en fait, Charles Strauss parlait sur une table ronde récemment du fait des outils qu'on crée et que en fait ces outils nous changent et que finalement on croit que c'est nous qui guidons les outils, qui les gouvernons, et en fin de compte c'est eux qui nous transforment.
There was an American philosopher, and I can't remember who it was, who said, "Somewhere among all these possessions is the cry of the possessed."
Alors, il y a un philosophe un philosophe américain dont j'ai oublié le nom, qui disait que
among all of these possessions is the scream of the possessed.
Et que parmi toutes ces possessions, en fait, il y a les cris des gens qui possèdent des choses.
Des
gens qui sont possédés.
I think, you know, we've become defined by the social structures that we've made, and I think what the apocalypse does is it takes away those supports, those gantries. It leaves us naked, and then we find out what we are.
Et donc en fait nous on est toujours contraints par les cadres qui ont été créés, les cadres qui nous entourent, tous les cadres sociaux, économiques, etc. Et en fait l'apocalypse supprime tous ces cadres et finalement nous laisse nous et nous permet de finalement trouver qui on est.
Et vous pensez qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui de l'apocalypse pour que tout d'un coup l'humanité soit un tout petit peu plus consciente et que de nous-mêmes, dans une certaine prise de conscience salvatrice, on décide de commencer à se dépouiller, à être un peu plus en humanité plutôt qu'en avoir, en être, plutôt qu'en avoir, comme le disait Pierre? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je sais, je rêve, mais sinon je ne dirais pas de fantasy et de science-fiction. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez?
J'ai l'impression que c'est la démarche monastique déjà, ou des ermites, de justement se dépouiller, le dépouillement pour se recentrer, donc sans passer par une apocalypse mondiale, ou alors c'est peut-être une apocalypse individuelle.
Oui, mais il n'y a pas de projet de société en commun. Quand on est moine ou quand on est ermite, on est un peu en retrait du monde et on vit pas avec les autres.
Les moines, en l'occurrence, si, ils vivent selon la règle de leur ordre en communauté. Les ermites, effectivement, moins, les anachorètes. Après, j'ai l'impression que cette apocalypse qui peut projeter l'humanité tout entière dans ces conditions de dépouillement, on peut aussi la voir à plus petite échelle. J'ai l'exemple de Sa Majesté des Mouches et tous les livres qui sont sur ce modèle d'une catastrophe qui va toucher un petit groupe d'individus qui vont se retrouver isolés, par exemple, sur une île déserte et devoir tout réinventer, qui ils sont, comment ils se définissent les uns par rapport aux autres, et souvent dans un dépouillement matériel important. Et dans le cadre de Phobos, c'est aussi ce qui se passe finalement, parce que ces 12 jeunes gens qui ont signé pour partir se trouvent, par la force des choses, dépouillés de l'identité qu'ils avaient sur Terre, de toute possession matérielle. Ils ont uniquement les installations qu'ils auront sur Mars. Et c'est des choses qu'ils ne réalisaient pas sans doute avant de s'embarquer, mais une fois qu'ils sont dans le vaisseau, une fois qu'il n'y a plus de retour possible, ils vont s'en rendre compte. Et finalement, ils sont dans une situation post-apocalyptique à leur échelle.
Pierre, une solution pour vous?
J'ai l'impression que le post-apocalyptique, c'est une sorte de choc une sorte de rétrécissement du temps pour obliger le lecteur, c'est de la perversité pure, on est d'accord, hein, à réfléchir sur d'autres éventualités ou à voir à quel moment on va aller dans le mur. Donc le post-apocalypse, c'est un raccourci qui doit donner un effet saisissant pour qu'effectivement on se dise bah oui, tiens, ça pourrait être différent. Et du coup, les fondamentaux humains reviennent en première ligne. Et c'est ça qu'on travaille avec les personnages du post-apocalyptique, c'est les fondamentaux humains. On est retour aux fondamentaux. La symbiose, la survie, l'amour, enfin, les cycles, l'acceptation du cycle naturel, ou bien quand il y a une catastrophe nucléaire, par exemple, comment on va s'adapter à cette catastrophe nucléaire, ou une catastrophe génétique, comme je l'ai fait dans les Fables de l'Impur. Ce sont des personnages mi-humains, mi-animaux, qui vont partir à la recherche des dieux humains, comme d'un rêve, d'un ancien rêve, et ils vont se rendre compte que ce sont eux les nouvelles formes de vie, et que leur travail, c'est de s'accepter en tant que nouvelle forme de vie. Donc voilà, le post-apocalypse permet cette espèce de passage de la vie ancienne à la vie nouvelle, pour peu qu'on se débarrasse des conditionnements, et c'est une sorte de déconditionnement brutal qui va obliger les personnages à effectivement réfléchir sur eux-mêmes et essayer de trouver de nouvelles voies.
Oui, et je pense que le post-apo aussi, avec justement des dehors parfois très colorés, très romans d'aventure en plus, donc très sympa, nous aide à prendre conscience de quelque chose, c'est-à-dire nous aide à prendre conscience que le changement, même si parfois on a du mal à l'accepter, finalement peut avoir une vraie valeur positive et qu'il ne faut pas être là en train de freiner les quatre fers, mais au contraire vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce changement-là. Et ça, c'est, voilà, quelque part, de faire des conditions un peu extrêmes, ça permet de jouer ce rôle de révélateur, en plus de faire des univers qui sont super cool et qu'on a vraiment envie de visiter. Et par exemple, le New York de Pierre Bordage dans Chronique des Ombres, très franchement, enfin moi j'aurais plus envie de le visiter que le New York actuel, il est super beau. Et si je peux finir 30 secondes, si vous permettez, tout à l'heure vous avez parlé de Laurent Val, et dans Les Étoiles sans balance, il fait quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est un vrai post-apo à fond, mais en même temps finalement c'est un post-apo où... c'est le mouvement naturel très progressif du monde qui a amené à l'apocalypse. Il n'y a pas eu un grand coup de tonnerre, quoi. Et ça, la manière dont il le met en scène, c'est vraiment à la fois très crédible et assez perturbant par moment. Enfin, c'est vraiment là-dessus une démarche qui est aussi vraiment passionnante.
In mathematics. Catastrophe theory, it's to do with systems, it's to do with complex, the behavior of complex systems.
Oui, en mathématiques, en fait, la catastrophe, ça a été théorisé, c'est un état dans les systèmes complexes.
And the more complex a system becomes, the more factors can destabilize it.
Is it the entropy
entropy.
Oui, et en fait, donc il y a la loi de l'entropie qui fait que de toute façon, plus un système devient complexe, plus il va tendre vers la destruction.
And so we've created a global civilization which is basically like a single machine with billions and billions of moving parts, and it is going to fall apart in our lifetime or our children's lifetime. It is going to fall apart, but that's not the end of the world, because what you do then is you create a new system.
Et en fait, on peut considérer l'humanité comme un espèce de gros système, comme une espèce de grosse machine géante avec des millions, des millions, des milliards de pièces, qui devient de plus en plus complexe dans ses manières de fonctionner. Et finalement, ce système, c'est mathématique, il va à un moment donné s'écrouler. C'est logique, c'est normal, c'est un cycle. Et ça ne voudra pas dire que c'est la fin. Ça va juste vouloir dire qu'à partir de ça, à partir des pièces qui se seront écroulées, un nouveau système va commencer à se rebâtir, va se complexifier, puis s'écroulera, et ainsi de suite. Ça correspond exactement à ce que tu disais, Pierre. C'est un cycle.
Donc pour vous, le post-apo, ce n'est pas du tout quelque chose de catastrophique. Hein, il n'y a pas de catastrophe. Ça nous empêche juste de nous dire... ce qu'on se dit quand même tous, souvent très... Enfin, pas souvent, peut-être pas à votre âge, je sais pas. Mais il arrive souvent qu'on voit, qu'on entende dans les médias cette phrase qui peut faire bondir les gens qui sont un peu tournés vers le futur, c'est « c'était tellement mieux avant hein, », ce petit côté un peu nostalgique. Et vous proposez justement qu'on se dise « du passé, faisons table rase et essayons de construire avec ce qu'on a et essayons d'avancer ». Et au lieu de s'accrocher comme des moules à un rocher qui est en train de s'écrouler.
Bah, disons, c'est pas tant du passé, faisons table rase, parce que le passé, il reste quand même là. Et justement aussi, dans le post-apo, il y a souvent des hommes du présent qui essayent de tirer des leçons de ce passé-là, de se demander notamment pourquoi ça a foiré. Mais ne nous accrochons pas à perpétuer quelque chose qui est déjà mort, en fait. Et n'essayons pas de rendre immortel quelque chose dont le temps est déjà passé. C'est arriver à avoir un rapport justement constructif avec son passé et non pas ce rapport morbide, oui, dont vous parliez, de toute manière c'était mieux avant, donc vite essayons de recréer selon la période favorite de chacun, les années 50, 60, 80, enfin en gros les années où on était adolescent et où le monde nous semblait facile, quoi.
Where the past is still alive is in our heads, on a server. What stops us from becoming is what we are.
En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Estelle. En fait, le passé, il est dans notre tête. Il est dans notre tête, il est dans nos souvenirs. Mais nous, notre corps, il est dans le présent et il est dans le futur qu'on va construire.
Alors, qu'est-ce que vous proposez de quoi doit-on se débarrasser en premier avant que l'apocalypse nous guette? Pas d'idée.
The Conservative Party.
Le Parti conservateur.
Alors, on ne va pas pouvoir tous les tuer d'un coup. Mais si c'est votre proposition, moi je vote pour. Hein. Ah. Mike propose que ce soit plutôt eux qu'on envoie sur Mars.
Et voilà, c'est eux qu'il faudrait. Oui, j'ai pas entendu. Oui, c'est eux qu'il faudrait plutôt envoyer sur Mars, effectivement.
Mars n'ayant rien fait à personne, elle est pourtant la visée de nos fantasmes et de terraformation et de deuxième navire. Voilà, ça c'est une partie importante de ce qui a été évoqué dans Sombres Horizons ou dans quand on parle du prix Une Autre Terre qui récompense des livres qui parlent d'écologie et qui parlent de futur du monde et de ressources non renouvelables. L'idée, c'est quand même qu'on n'a qu'un seul navire, c'est cette planète, ouais. Et que pour l'instant, on n'en a pas d'autre.
Bah, y a bientôt Mars, selon Victor.
Oui, alors on ne va pas tous pouvoir partir dans le roman de Victor.
Non, mais
vous et moi, parce qu'on ne veut pas se reproduire.
C'est une télé-réalité, donc, dans un deuxième temps, ouais. Je ne pense pas qu'il faille se débarrasser de choses ou de gens, parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas de nous-mêmes une vision très claire, de l'humain une vision très très claire pour l'instant. Et je me semble que ce qui est important, et c'est ce qu'essaie de faire le post-apocalyptique finalement, c'est de nous obliger à réfléchir sur l'humain. C'est-à-dire d'avoir de l'humain une vision entièrement neuve, parce que malheureusement, la pensée crée du temps. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Krishnamurti, donc un philosophe indien. La pensée crée du temps parce qu'elle est linéaire et qu'elle nous emmène toujours là où elle connaît, c'est-à-dire à reproduire toujours les mêmes erreurs. Donc ce qui est important, à mon avis, pour améliorer les choses, si on est tenté de les améliorer, c'est d'avoir des choses, une vision entièrement neuve, c'est-à-dire débarrasser de toutes les formes de conditionnement. Et on en a un paquet, finalement. Conditionnement religieux, conditionnement national, conditionnement politique, conditionnement de l'âge, conditionnement du sexe, conditionnement d'un tas de choses, qui fait que notre pensée n'est jamais libre, finalement, et qu'elle revient toujours dans le temps. Donc, voilà, c'est briser cette espèce de malédiction du temps, le chronos mangeant ses enfants, finalement, et reproduisant toujours les mêmes mécanismes, et essayer de trouver des choses totalement nouvelles, de penser le monde de façon différente. Ça me semble l'intérêt finalement du post-apocalyptique, c'est inciter à penser différemment.
Donc vous nous proposez de nous changer d'abord nous-mêmes, chacun.
Bien sûr, ça ne peut pas fonctionner autrement.
Okay, commencez à bosser sur vous.
Par exemple, quand on a un conditionnement religieux, catholique, musulman, juif ou ce que vous voulez, surtout les religions du livre, c'est un conditionnement purement matériel parce que ce sont des religions matérielles qui sont cristallisées dans la matière finalement, c'est-à-dire que ayant fait d'un dieu extérieur l'espèce d'arbitre de nos grâces et de nos disgrâces, on a transformé ça par est-ce que la science va pouvoir remplacer Dieu et arbitrer les grâces et les disgrâces, et ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Simplement, on aura un peu plus de puissance pour nous détruire nous-mêmes, mais si les mécanismes sont toujours les mêmes, eh bien, on arrivera toujours au même résultat, c'est-à-dire à une forme de souffrance, finalement. Est-ce que le post-apocalyptique, ce n'est pas une tentation? Alors, une tentative désespérée, finalement, et un peu détournée, d'échapper à la souffrance. Quelle question?
C'est un appel à quelque chose d'extérieur, dans lequel que ce
Exactement. Georges Bormand vient de résumer ma pensée. C'est mieux que je l'aurais fumé moi-même.
Mike, merci Georges. Mike, est-ce que cette petite fille a des solutions ? Sans rien nous révéler, hein, mais qu'on puisse avoir envie de trouver.
In a way, she is the solution, and certainly the decision she makes at the end of the book creates the possibility of something different and something better. But she has to. The story is all about her relationship with the adults around her, and in a way, she has to cut herself loose from their influence in order to become what she needs to be.
Alors en fait, en réalité, Mélanie, c'est elle la solution. C'est elle qui porte la solution, parce qu'en fait, à la fin du livre, par rapport à une décision qu'elle va prendre, elle peut décider une chose ou une autre, hein, d'où le choix de Pandore. En fait, à partir d'une décision qu'elle fait, elle va créer la possibilité d'autre chose et d'un autre futur. Mais en fait, en réalité, au début du livre, elle est entourée par les adultes, elle est influencée par les adultes. Et en fait, on en revient au problème du conditionnement, il va falloir qu'elle arrive à penser par elle-même, à se débarrasser finalement de ce conditionnement des adultes pour pouvoir être libre et avoir une vision claire pour savoir comment prendre la décision.
Which means that when you take away all of the post-apocalyptic furniture, it's really just about a story about growing up.
Et en fait, quand on enlève un petit peu toute cette espèce de mobilier post-apocalyptique, en réalité, on retombe toujours sur la problématique de grandir.
Ok. Moi, ce que je voulais, c'était surtout conclure sur l'idée que l'avenir du monde tient dans l'esprit d'une petite fille zombie. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
La conclusion est que l'avenir du monde peut être dans les mains d'une petite fille zombie.
Et ben voilà, merci à tous les cinq d'avoir éclairé notre vision de ce qui se passe après la catastrophe.